Super. Alors, bon matin. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être à l'église ce matin? Oui! Oh, je sens de l'enthousiasme. Super. Donc, ce matin, je prie que le Seigneur ouvre nos cœurs à vraiment recevoir sa parole, qu'il puisse parler à travers son Saint-Esprit à chacun d'entre nous d'une manière spéciale. On sait que la parole de Dieu est la même pour tous, mais Dieu désire nous toucher d'une manière vraiment personnelle et intime. Et ce matin, on veut garder nos cœurs dans cette posture-là, cette ouverture-là pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que c'est un verset qui vous dit quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce verset-là? Il est cité encore, encore et encore. Et quand je vous dis « je peux tout par celui qui me fortifie », à quel domaine de votre vie est-ce que vous pensez? Est-ce que je pourrais avoir quelques exemples? « Je puis tout par Christ », dans quel domaine? À l'école. À l'école, OK, parfait. Ensuite? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dans quel domaine de votre vie ça peut s'appliquer, ça?
N'importe où.
N'importe où, effectivement. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui a une autre idée?
Le travail.
Le travail, OK. Super, j'en prends une dernière. Oui?
Ma famille.
Dans ta famille, super. Et c'est vrai, Christ nous donne la force. Mais ce matin, on va regarder vraiment le contexte du passage dans Philippiens. Donc, vous l'aurez deviné, je termine la série que Marc avait débutée sur le livre de Philippiens. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce verset-là dans son contexte, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante en dehors de son contexte, mais elle est puissante surtout aussi dans son contexte, parce que Dieu l'a écrit dans un certain contexte pour une raison. Donc, expérimenter la puissance de Dieu. Regardons un petit peu le contexte. On va lire ensemble. Si vous avez de la misère à voir ici à l'avant, il y a un écran aussi à l'arrière que vous pouvez voir. Donc, Philippiens, effectivement, c'est un peu petit. Philippiens 4, les versets 10 à 19. Vous pouvez également suivre dans votre Bible si vous désirez. Donc, j'ai éprouvé une grande joie, dira Paul, dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne prit part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, littéralement les cadeaux, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblée en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, vous l'aurez deviné, le contexte de ce verset-là, c'est un contexte de situation financière. Donc, Paul dit, je peux recevoir la puissance de Dieu dans mes finances, quelle que soit ma situation financière. Amen. Donc, j'ai la force, j'ai la puissance en Christ pour faire face à la richesse ou à la pauvreté. Peut-être que vous me direz ce matin, moi, l'argent, j'ai pas de problème avec ça, tant que je peux payer mes comptes et avoir un petit extra là, pour me gâter, une petite sécurité, je suis correct. J'aimerais vous suggérer que ce n'est pas aussi simple que ça. Dans notre cœur, dans notre tête, ou dans notre compte en banque, on se retrouve souvent dans une de ces deux catégories-là. Et en fait, généralement, on se retrouve là. Parce que si j'ai juste assez pour pouvoir à mes besoins, ben je me sens pauvre. Ou si j'en ai pas suffisamment, si j'arrive serré, je vais dire ben je suis pauvre. Hein? Et si j'ai un surplus, je vais dire ben je suis riche finalement. Ou peut-être que finalement, je vais avoir quand même une mentalité de pauvre, parce que je vais me dire, oui, mais là, si je veux une voiture neuve à 60 000 $, bien là, je suis pauvre. Hein? Donc, la pauvreté, la richesse, c'est pas juste un numéro dans votre compte en banque, c'est aussi une attitude de cœur, une question de perspective. Et Dieu veut nous donner sa puissance, sa force, mais là, peut-être vous me direz, de quoi tu parles, là, de puissance, de force? Moi, quand je pense à la puissance de Dieu, souvent, je pense, ah, les miracles, les dons de guérison, quelque chose de vraiment spectaculaire. Mais je pense que la puissance de Dieu agit aussi de manière très subtile. Elle agit aussi dans le raffinement de notre caractère. Elle agit aussi de manière plus intime et plus peut-être invisible ou subtile. Et je pense que dans ce contexte-là, on parle de la puissance de Dieu qui nous transforme. Cette puissance-là qui agit de manière discrète. Donc, regardons un peu plus loin ce problème-là de la pauvreté, de la richesse. L'un des passages qui me semblait bien exprimer ces problématiques-là, c'est dans le livre de Proverbes, et donc c'est la prière d'Augure qu'il fait. Il dit « Je te demande deux choses ». Donc il demande deux choses au Seigneur. « Ne me les refuse pas avant que je meure. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier, de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. » « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mettons qu'on irait là, dans le Nouveau Testament, dans une autre prière, par Jésus. Oui, bravo! Il y en a qui connaissent le Notre Père, c'est merveilleux! « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Donc, une prière très simple, mais une prière que Dieu réponde à nos vrais besoins, hein? Pas à nos besoins nécessairement superflus. Une prière pour qu'on apprenne à dépendre de Dieu. Hein, si je demande à Dieu de me donner le pain dont j'ai besoin, je reçois aussi avec reconnaissance qu'il me donne. Je le reçois comme venant de lui aussi et pas juste le fruit de mes propres efforts. Je parlais cette semaine avec mon amoureux, puis on parlait d'un sujet, puis il me disait, c'est drôle, hein? Des fois, on se dit « Ah, oh, je pourrais comme travailler plus, faire plus d'argent » et on peut avoir la tentation de mettre les choses de Dieu de côté. Mais dis, mais la santé qui te faut pour travailler, qui est-ce qui te l'a donné? C'est Dieu. Donc, lui aussi, ça vaut la peine de le garder dans l'équation. Les opportunités qu'il nous donne, hein, on ne peut pas tout faire par soi-même. On est appelé à dépendre de Dieu. Mais il y a des risques. Il y a des risques lorsqu'il est question d'argent, de nos perspectives, des dons que Dieu nous donne. Et nous allons les voir un petit peu. Donc, il y a les pièges que j'appellerais les pièges de la richesse, hein, quand on en a plus que pas assez. Et comme je vous dis, prêtez attention, parce que les pièges de la richesse, c'est pas juste un numéro dans votre compte en banque. Des fois, c'est une attitude de cœur. Et le premier piège dont je veux vous parler ce matin, c'est celui de ne plus dépendre de Dieu pour subvenir à ses besoins. « Je suis capable tout seul. » Et là, on a une petite attitude, hein, de, un peu comme nos enfants là, quand ils ont 2 ou 3 ans. Et là, tout d'un coup, ils sont capables d'attacher les lacets. Ils ne sont pas tant capables, mais ils se sentent capables. Bien, nous aussi, des fois, on est comme ça avec Dieu. « Je suis capable, Seigneur, de pourvoir à mes besoins. Donc, hein, donne-nous notre pain de ce jour. » Bien, pas tant, non. Je suis capable de le faire pour moi-même. Donc, cette tentation-là de ne plus dépendre de Dieu. Le texte nous dit aussi assez littéralement de rejeter Dieu complètement. Donc, je risquerais, une fois rassasié, de te renier, de dire « Qui est l'Éternel? » Hein, j'en ai plus besoin de Dieu. Et c'est un peu quelque chose qui nous guette. Hein? On le voit dans les pays occidentaux, dans les pays où ça va bien au niveau économique. Ben, des fois, on a tendance à dire ben, « Dieu, pourquoi? Hein? » Ah, « Dieu n'existe pas. Dieu, je n'ai pas besoin de lui. » Donc, on s'éloigne de Dieu parce qu'on est rassasié, du moins d'un point de vue matériel. Et c'est une tentation qui nous guette. Ensuite, une autre tentation à laquelle on peut faire face, c'est celle de choisir la stabilité ou la prospérité financière plutôt que la stabilité ou la prospérité spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu peut nous appeler à utiliser les finances qu'il nous donne pour bénir les autres, pour faire avancer son œuvre dans le monde. Mais il y a une tentation quand on a des sous de toujours augmenter son rythme de vie au détriment des gens qui sont dans le besoin. Hein, on entre dans un système matérialiste et nos yeux sont fixés sur les richesses terrestres plutôt que sur les richesses célestes, sur nos propres besoins à nous plutôt que sur les besoins de nos frères et sœurs qui sont dans des situations plus précaires, peut-être même que des membres de notre famille qui ont des besoins. Donc, Dieu nous appelle à faire attention à ce piège-là qui nous guette. Peut-être une phrase de réflexion ou d'introspection que je peux vous suggérer, c'est que peut-être on est dans le piège de la richesse, de l'abondance, quand on en demande toujours plus. Hein? Nos besoins sont toujours répondus, mais on n'en a jamais assez. Si je vous demandais ce matin combien vous auriez besoin dans votre compte en banque pour vous sentir en sécurité? C'est une bonne question, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous me diriez. Moi, je me suis mis à répondre, à penser à ça, puis là, je me suis dit, « Ah, mais tu sais, si j'avais quelques milliers de dollars de plus, je pourrais avoir une voiture neuve. Ah, mais là, ça me prendrait un coussin au cas qu'il y a des bris sur la voiture. Ah, là, je pourrais peut-être m'acheter un condo ou une maison. Mais là, si j'achète un condo ou une maison, il faut que je prévoie des fonds pour les réparations. Mais là, peut-être qu'il fait chaud l'été, donc ça prendrait une piscine. » Donc là, tout d'un coup, hein, on se rend compte que c'est comme une pente glissante et qu'il n'y en a jamais assez pour vraiment se sentir en sécurité. La raison est bien simple, c'est qu'on ne peut pas mettre notre confiance dans nos richesses terrestres. Notre confiance, elle est faite pour être mise en Dieu. Et lorsque notre confiance, elle est en Dieu, bien, on tombe en dehors de ce paradigme-là de richesse-pauvreté parce qu'on est en relation en direct avec celui qui dit « À moi appartient l'or, à moi appartient l'argent ». Hein, c'est le Seigneur qui nous a dit, c'est moi le maître des richesses, c'est moi qui pourvois. Donc, tant que tu tournes vers la chose, hein, la richesse, les biens que tu as, tu seras toujours dans l'insécurité. On continue dans la parole de Dieu. Jésus est très direct, hein, il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres, car ou tu vas détester le premier, tu vas aimer le second, ou tu vas t'attacher au premier, tu vas mépriser le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est intéressant, moi, quand je lis ce passage-là, je me dis, mais pourquoi c'est pas genre Dieu puis le diable ou le malin? Mais non, c'est Dieu puis l'argent, c'est aussi simple que ça. Notre cœur est tellement attiré vers les possessions matérielles que ça peut devenir en directe opposition avec notre marche spirituelle. Si je peux vous donner une idée, c'est un petit peu comme si dans cette salle-ci, hein, juste de ce côté-là, j'avais le Seigneur Jésus, puis juste de ce côté-là, j'avais l'argent. Bien, j'aurais de la misère à garder mes yeux sur Jésus et sur l'argent en même temps. Et Jésus nous dit, ça marche pas, tu peux pas, faut que tu choisisses. Et c'est pas toujours un choix facile, frères et sœurs. Hein, on a tendance à tourner nos yeux et dire, oh, il m'en reste combien dans mon compte en banque? Mais Jésus dit, regarde vers moi en premier. Mais il n'y a pas juste la richesse qui peut être problématique. La pauvreté aussi vient avec ses propres défis. Et là, probablement que je ne vous apprends rien. Hein? Quand on en a un petit peu moins, ça aussi, ça peut amener d'autres problématiques. Ici aussi, notre piège, c'est de ne plus dépendre de Dieu pour subvenir à nos besoins. Et des fois, ça se vit un peu différemment. Hein? Dans le texte, on le voit, il parle de maudire Dieu, de se mettre en colère contre lui et de trouver des manières détournées, des manières malhonnêtes de répondre à ses propres besoins. Le texte dit ceci, « Après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. » Ah ben Dieu, tu ne réponds pas à mes besoins, je vais m'en occuper moi-même, tu vas voir. Et des fois, c'est subtil. Des fois, c'est dans les petites choses. Et comme je vous dis, c'est une question de mentalité, pas juste une question de chiffres. Je suis allée à l'épicerie cette semaine, à la pharmacie. Et puis, je scannais mes choses moi-même. Et là, je scanne une... C'était quand même une bonne facture, là, tu sais. Puis, je scanne un pot de vitamines, tu sais. Ça me dit 19 cents. Je me dis, je pense pas qu'ils vendent ce gros pot-là à 19 cents. Mais là, il y avait comme un petit peu d'un combat dans mon cœur. Je me disais, ouais, mais tu sais, ils font tellement de profit avec. Là, j'ai dit, non, va pas là, Mélodie, va pas là dans ta tête, là. Et donc, j'ai dit à la dame, écoutez, il y a une erreur. Ça Je suis sûre que ça coûte pas 19 cents, ce gros pot-là. Mais il y a des combats, des petits combats comme ça parfois. Et il faut pas laisser d'espace à l'ennemi dans notre vie à ce niveau-là, parce qu'un petit compromis en amène un autre. Hein, et des fois, c'est facile, mais voler une institution, voler son employeur, voler le gouvernement en faisant pas sa déclaration d'impôt de manière honnête, c'est pas honnête. On est honnête ou on l'est pas, on fait confiance à Dieu ou on lui fait pas confiance dans ce domaine-là. Et ici, je veux quand même vous parler d'une réalité dans le corps de Christ. Ici, au Québec, on a des opportunités financières extraordinaires. On a souvent des défis qui sont vraiment moindres, confrontés à d'autres réalités. Donc, j'étais dans un pays beaucoup plus pauvre que le Canada. Et puis, j'ai écouté des histoires. Tu sais, j'ai pleuré avec une sœur qui avait vraiment été confrontée à une réalité difficile. Elle n'avait plus d'argent pour nourrir ses enfants. Et donc, il y avait la prostitution. Moi, j'ai jamais eu à faire ce choix-là. Mais on a des frères et sœurs dans le monde qui aiment le Seigneur, mais qui sont confrontés à des choix extrêmement difficiles. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'on a une responsabilité aussi comme chrétiens, pas juste envers les membres de notre famille biologique, pas juste envers notre Église ici au Québec, mais à travers le monde aussi, on a une responsabilité envers nos frères et sœurs. C'est pas pour rien, frères et sœurs, qu'on s'engage dans la mission, qu'on donne à la mission. C'est parce qu'on reconnaît qu'on est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est pas juste les Canadiens ici, les gens qui sont au Canada, c'est à travers le monde. Donc, frères et sœurs, qu'on puisse être sensibles, pas juste à nos besoins, mais aux besoins de nos frères et sœurs. Et il y a un piège aussi, peut-être une autre idée qui peut nous amener à réfléchir. Des fois, on ne sait pas vivre dans la pauvreté quand on n'est pas capable d'en garder. Hein? Dès qu'on a de l'argent, on est comme « il faut que je la dépense, là. Il faut que j'en profite pendant que ça passe. » Et on ne fait pas confiance que Dieu va nous pourvoir à nouveau, plus tard. Donc, frères et sœurs, soyons sensibles à ces choses-là. Parce qu'il y a vraiment un piège pour notre vie spirituelle. Si je retourne encore à ce que Jésus a dit, Jésus dira ceci dans Matthieu. Dans la parabole des semeurs, hein, il nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, et quoi? L'attrait trompeur des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. » Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ce matin pendant que j'enseigne. Peut-être même que vous sentez déjà des petites réactions. On parle d'argent. Oh non, vas-tu nous appeler à donner? Ah, oh, tout le monde veut mon argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Est-ce qu'ils vont bien l'investir? Ah, oh, ben là, moi... ça peut commencer déjà, là. Et des fois, on a besoin de s'examiner. Des fois, on a même des blessures en lien avec l'argent. Des fausses conceptions culturelles qui nous ont été transmises, des fois, de génération en génération. Et là aussi, c'est Dieu veut amener sa guérison. Parce qu'il dit, si tes yeux sont sur ta richesse, ça peut littéralement étouffer la parole de Dieu. Dieu essaie de te parler, puis toi, t'es comme, l'argent. T'entends plus ce que le Saint-Esprit veut dire. C'est quoi ça? Attention, frères et sœurs, soyons prudents, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Laissons pas les craintes financières, les ambitions financières nous détourner de Dieu. Bon, on a parlé un petit peu de choses sous un angle un peu négatif. Allons-y un peu sous un angle positif. Qu'est-ce que ça veut dire, le succès financier selon Dieu? Comment on sort de ça, cette dichotomie-là de la pauvreté ou la richesse, une mentalité de pauvre, une mentalité de riche? Comment je sors de ça, finalement? Parce que je suis prêt à gérer de l'argent, là. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas besoin d'argent. On a tous besoin d'argent pour vivre. Donc, comment on arrive à gérer tout ça? On en a parlé, hein? Une gestion et une expérience de mes finances qui se vit en partenariat avec Dieu. Donc, on en a parlé quand on sort de la mentalité de pauvreté et la mentalité de richesse, on entre dans un espace où on dépend de Dieu pour ses finances. Donc, ce serait le premier point. Hein? On apprend à vivre ses finances en dépendance avec Dieu. Ça peut se faire à travers la prière, hein, ça peut se faire à travers la lecture de la parole de Dieu. Parfois, il y a des conversations importantes dans un couple qui doivent avoir lieu. J'écoutais quelqu'un qui parlait cette semaine et qui disait, moi et mon épouse, on a des money dates. Fait qu'on a des soirées de couple où on se rassemble et on parle d'argent. Hein? C'est peut-être pas votre idée d'une soirée romantique. Mais pour le monsieur, ça avait l'air très romantique. Il a dit, écoute, ça l'a vraiment changé notre mariage. Qu'on puisse s'asseoir ensemble et prier. Seigneur, comment tu veux qu'on donne? Comment tu veux qu'on investisse? Guide-nous, dirige-nous. Donc, la gestion des finances est devenue une activité spirituelle et non pas juste une activité quotidienne, une nécessité de la vie de tous les jours. Les succès financiers selon le Seigneur, et on va détailler ces trois prochains points-là, c'est un échange de contributions, une discipline spirituelle et un trésor éternel. Ouh, éternel, de l'argent pour l'éternité. Est-ce que c'est votre rêve? On va parler de ça d'un point de vue spirituel, par contre, désolée. Donc, je vais vous présenter, on va revenir au texte qu'on a lu ce matin, le texte de Philippiens, que je vais mettre un peu en parallèle avec qu'est-ce qu'on voit dans le ministère de Jésus ou dans les paroles qu'il nous a données. Parce que ce que Paul va dire, ça sort pas de nulle part. Hein? Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Paul, là, c'était-tu pas ses propres idées? » Non, non, c'était pas ses propres idées. Il enseignait ce qu'il avait reçu de Christ à travers les disciples, à travers sa rencontre aussi avec Christ. Un échange de contributions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très brièvement, Jésus a exercé son ministère grâce au soutien financier de ses disciples. Vous ne me croyez pas? Allez lire dans Luc 8. Et même d'ailleurs, hein, la parole de Dieu nous dira qu'il y avait beaucoup de femmes qui donnaient généreusement. Donc Jésus, qui est Dieu tout-puissant, Dieu incarné, a choisi de se placer dans une dépendance et d'exercer son ministère grâce aux dons et au soutien des gens autour de lui. Vous pensez que c'était la charité? Non, ce n'était pas la charité, ça fait partie du plan de Dieu. Et Paul aussi a fait ce même cheminement-là. Il dit, vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Il parle d'argent, là. Il dit, vous le savez, au début de la prédication de l'Évangile, aucune église a pris part à un tel échange de contributions avec moi. Je ne sais pas si vous entendez le drame là-dedans. Hein? Wow! On veut que les gens connaissent le Seigneur, qu'il y ait la joie. Mais là, quand c'est le temps de donner, oh! Débrouille-toi par toi-même. Ah, Dieu pourvoira tes besoins, mais moi, je ne contribue pas. Hein? Moi, je ne fais pas partie de la réponse de Dieu. C'est quoi cette affaire-là? Et mais cette église-là a eu cette vision-là missionnaire. Ils ont dit, nous, on veut avoir un impact éternel. Et voilà, toi, Paul, tu vas travailler, puis nous, on va te supporter. Donc, ce n'est pas très compliqué. Hein? Un donne plus de son temps, l'autre donne de son argent. Et on est tous appelés à donner de son temps et on est tous appelés à donner de son argent, même comme pasteur, on est appelés à donner aussi. Mais selon le rôle que Dieu nous donne de jouer en priorité, il y a certaines personnes qui vont donner un peu plus de leur temps. Il y a des gens qui vont être capables de donner un peu plus d'argent parce qu'ils vont avoir, par exemple, un meilleur emploi. Pas plus compliqué que ça. Ça fait partie du plan de Dieu, frères et sœurs, qu'on s'engage de cette manière-là. Et notre impact n'est pas moindre parce qu'on est un donateur, là. Au contraire. Au contraire, c'est un investissement. Et Dieu nous appelle à investir de cette manière-là. Là, j'entends pas d'amen. Si tu crois en amen, il me semble que ça me donnerait du pep un peu. Ah, merci! Je me sens déjà plus encouragée. Mais il y a des amens qui sont plus difficiles que d'autres, hein? Oh! Surtout quand ça parle d'argent. Bon, on continue. Là, selon le Seigneur, hein, notre gestion de l'argent, pour qu'elle soit remplie de succès, elle est aussi une discipline spirituelle. Donc, on voit dans le texte, encore dans Luc, que Jésus envoie ses disciples sans rien prendre avec eux. Hein, il va leur dire, allez là, tu sais, répandez le ministère, la parole de Dieu. Mais il dit, amenez pas de bourse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prenez pas d'argent. Amenez pas de vêtements de rechange, pas de sandales. Hey, moi j'aime pas ça, mettre le même linge tous les jours, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est comme si je vous invitais à faire un road trip avec moi puis je vous disais, hey, amène pas d'argent, on y va sur le pouce, gang. On sait pas ce qu'on va coucher. On ne sait pas ce qu'on va manger. On y va, let's go. Comment qu'il y en a qui embarquent avec moi? Hey, je pense que j'embarque même pas avec moi. C'est pas nécessairement naturel. Mais Dieu voulait que ses disciples apprennent à grandir avec lui. Et c'est ça qu'on dit quand on parle d'une discipline spirituelle. C'est pas comme une discipline, une conséquence. C'est plus comme un sport. Hein? Si tu veux courir un marathon, il faut que tu t'entraînes. Et donner sa dîme, à faire preuve de libéralité, de générosité financière, soutenir des frères et sœurs qui sont dans le ministère, c'est une discipline, c'est un entraînement spirituel au même titre que la prière, que le jeûne, et etc., etc., parce qu'il y a plusieurs disciplines spirituelles. Et Paul va le dire un peu ici quand il va dire dans le texte de Philippiens, « Vous m'avez envoyé ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Paul reconnaît que c'est un sacrifice, là. Donner, c'est pas facile. On a travaillé pour cet argent-là. On est capable de se trouver des besoins pour dépenser cet argent-là. Généralement, c'est assez facile. Ou pour l'investir, pour se sentir un petit peu plus en sécurité si vous êtes du type écureuil et que vous aimez faire des provisions. Et donc, Paul reconnaît qu'il s'agit là d'un sacrifice. L'image qu'il nous donne, c'est une image de l'Ancien Testament, hein, le sacrifice. Donc, si vous n'êtes pas familier, trop, en gros, là, les gens, au lieu d'amener de l'argent, ils amenaient de leur récolte, que ce soit de l'huile, du grain, un animal, un oiseau, puis on le brûlait. Et le reste servait aux prêtres pour sa consommation personnelle. Donc, ça nous dit un exemple de « Hey, ce que je donne, il n'est plus à moi. Il est vraiment à Dieu, là. Je l'ai remis pour l'avancement de son royaume. Et des fois, ça s'en va dans la fumée dans le sens que j'y ai plus accès, là. Je l'ai vraiment donné à Dieu. » Et j'aimerais vous inviter à considérer qu'on donne, oui, on donne à un ministère, oui, on donne peut-être à une église, oui, peut-être qu'on donne à une œuvre internationale ou à une autre œuvre de charité, mais on donne avant tout à Dieu. Donc, on donne avant tout pour grandir en intimité avec Dieu et être transformé par lui. Vous savez, les disciplines spirituelles, c'est un petit peu, si je reviens un peu comme au sport, si on pratique un sport, hein, par exemple, je fais des muscles avec mes bras, là, hein, je prends des gros muscles, je vais peut-être venir avec des bras gros de même, ça va être un petit peu moins joli, mais bon, je pourrais devenir bodybuilder, là, comme ça. Si, par contre, je fais plus de la course, bien, tu sais, c'est là que mes muscles vont être plus développés. C'est assez simple comme concept, mais c'est la même chose au point de vue spirituel. Il y a certaines disciplines qui nous amènent à nous développer dans certains domaines de notre vie. Donc, la prière développe un certain aspect de notre vie. Le jeûne va développer autre chose dans notre marche avec le Seigneur. Mais les dons financiers, hein, la générosité, ça développe un autre domaine de notre vie. Donc, j'aimerais vous inviter à considérer, êtes-vous musclé dans ce domaine-là? Avez-vous même des muscles fonctionnels ou pas? Et ça, il y a juste vous et Dieu qui le savez. Finalement, la dernière chose que je veux souligner ce matin, c'est que le succès financier, selon Dieu, c'est d'acquérir un trésor éternel. Donc, Jésus dira ceci, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mites, c'est-à-dire les bebites, et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si je regardais votre compte en banque ce matin, où est-ce que je verrais votre cœur? 500 piastres de dollars par mois pour du restaurant? C'est-tu là que serait votre cœur? Si je vous connaissais pas, là, puis que je regardais juste votre relevé bancaire, est-ce que je verrais dans votre cœur la mission? Est-ce que je verrais dans votre cœur votre assemblée locale? Qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que je trouverais? Qu'est-ce que vous trouveriez? Peut-être que vous pouvez le faire, cet exercice-là, à la maison. Et Paul dira ceci, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. » Évidemment, il ne parle pas d'un compte terrestre, là. Il parle d'un conte céleste. Il dit, en gros, ce que Paul est en train de leur dire aux Philippiens, c'est « Quand vous m'avez donné à moi, là, c'est à vous-même que vous avez donné dans l'éternité aussi. Vous avez eu un fruit dans la transformation de votre caractère qui va perdurer jusque dans l'éternité. Vous allez avoir un impact éternel. » Et des fois, il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Moi, je suis du type écureuil. Je suis comme ça. Hein, j'ai un peu hérité ça de mon bagage familial. Peut-être que vous êtes autrement. Mais Dieu nous amène à sortir de ces catégories-là et à nous poser des questions. Pour moi, une question qui a été transformatrice à un moment donné, c'est... J'ai regardé mes amitiés, puis je me suis dit, « Ouais, comment je serais prête à payer pour que quelqu'un connaisse Christ? » Si je devais mettre un chiffre là-dessus. C'est une bonne question, hein? Ce qu'on fait avec nos sous peut avoir un impact dans notre témoignage. Donc, parce que Christ me fortifie, je peux dépendre de Dieu pour subvenir à mes besoins à travers la prière et la recherche de sa volonté. On peut prier, « Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire par rapport à ça? Est-ce que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça? » Demandez à Dieu comment il veut que pourvoir à vos besoins. Et encore là, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui sont des super travaillants. Hein? S'il y avait plus que 7 jours par semaine, eux, ils en travailleraient plus. Ils travaillent 10 jours par semaine, ces gens-là. Peut-être que Dieu va dire, « C'est beau, calme-toi, là. Apprends à me faire confiance. Hein? T'as déjà 500 000 dans ton compte, là. Calme-toi, là. » Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, « Seigneur, pourvois mes besoins. » Mais qui n'aiment pas trop ça, le travail, tu sais. Fait que, « Seigneur, pourvois mes besoins, dis au monde qui me donne de l'argent. » Et peut-être que le Seigneur va leur dire, « Ben, toi, va travailler, tu sais. J'ai un autre plan pour ta vie. » Donc, on invite Dieu dans nos finances. Lorsque Dieu me donne sa force, lorsqu'il me transforme, je peux être sensible à comment Dieu m'appelle à utiliser mon surplus quand j'en ai, hein, pour pourvoir aux besoins des autres et de l'Église. Donc, c'est cette mentalité-là missionnaire. La Bible nous dira d'ailleurs, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Les richesses injustes, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans votre compte en banque. Que vous en ayez beaucoup ou pas. Hein, la vie n'est pas juste. On n'est pas toutes nées avec un cerveau capable de devenir un grand politicien ou un médecin ou quelqu'un qui va avoir un métier très haut dans la société. On n'a pas toutes eu les opportunités de faire ces études-là non plus ou de trouver un genre de travail qui est vraiment payant. Mais on est toutes les intendants de Dieu et on est tous appelés à être sensibles à comment Dieu nous appelle à donner. Selon nos capacités. Amen. Et Dieu dira à la, et Jésus dira de la femme veuve hein, qui donne peu, ces 2 sous-là, elle a donné plus que toutes les autres. Donc, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question d'obéissance à ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Lorsque Christ me fortifie, je suis capable de résister au piège de la malhonnêteté. Hey! Je ne connaîtrai pas ma paix avec le Seigneur pour quelques dollars de plus ou de moins. Hein? Mon intimité, ma marche avec Dieu vaut plus que le nombre, le chiffre qui est écrit sur mon compte en banque. Lorsque Christ me fortifie, je peux contribuer à son œuvre, quelle que soit ma situation financière. Donc, tout ce que je fais a quand même une valeur. Et comme je vous disais, hein, la valeur éternelle qui est attachée à mon don, elle n'est pas attachée aux chiffres. Elle est attachée en proportion à ce que Dieu me demande de faire. Lorsque Christ me fortifie, j'ai cette mentalité-là, je dis, moi, là, ça, là, c'est mon investissement dans l'éternité. C'est mon investissement peut-être dans la vie de cette personne-là. C'est mon témoignage. La gestion de mon argent, c'est aussi mon témoignage. Et finalement, lorsque Christ me fortifie, je suis capable d'être constant dans ma marche avec lui. que j'en ai beaucoup, que j'en ai peu, hein? Paul dira, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre avec beaucoup, je sais vivre avec peu. Je suis capable de gérer la pauvreté, je suis capable de gérer la richesse parce que Dieu me fortifie. Je suis stable dans ma marche avec le Seigneur. Hein? Quand j'en ai moins, je ne commence pas à maudire Dieu puis à être malhonnête. Quand j'en ai plus, hein, je ne commence pas à faire mon indépendant puis à dire, ben, pff, Dieu, j'en ai pas besoin. Non, j'apprends à être constant dans cette posture-là de dépendance avec Dieu. Donc, frères et sœurs, on va prier ensemble ce matin parce que vraiment, je peux tout par Christ qui me fortifie dans la gestion de mes finances. Parce que Christ, par Christ qui me fortifie dans ma gestion de mes finances et qui m'aide à me tourner vers lui de tout cœur. Prions. Éternel mon Dieu, je te remercie de ce que tu as pourvu avec une parole qui est tellement riche en enseignements sur la gestion des finances. Et Seigneur, on reconnaît que chacun d'entre nous, on a besoin de grandir dans ce domaine-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, on tombe souvent dans les pièges de la pauvreté ou de la richesse, qu'elle soit littérale ou qu'elle soit imaginée. Seigneur, tu nous appelles à sortir de là. Aide-nous, Seigneur Dieu, à dépendre de toi, à nous laisser transformer, à considérer, Seigneur, l'impact éternel que tu veux qu'on ait. Seigneur, aide-nous aussi à nous voir comme faisant partie d'un corps. Seigneur, que nous puissions répondre à ton appel si tu nous appelles à donner plus de temps et à courageusement nous laisser supporter par nos frères et sœurs dans notre ministère. Seigneur, qu'on puisse répondre à cet appel-là avec courage. Et si, Seigneur, tu nous appelles à donner, à être quelqu'un qui supporte un frère et sœur dans l'avancement de l'Évangile, Seigneur, qu'on puisse entrer dans cet appel-là de tout cœur. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.